Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Média, sur Sud Radio pour parler Média dans un instant. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour madame.
Sud Radio, les médias. On va recevoir dans un instant Patrick Sébastien qui va nous parler de son nouveau livre, plein de petites phrases.
J'ai déplacé l'éléphant,
donc dans un instant avec nous, une longue interview avec lui.
Je pense que ça va être truculent.
Absolument. Et puis Laurence Piau, tout le monde n'a pas la chance d'être vegan. Bah, appelez-nous pour témoigner, pour nous dire.
Ça sera moins truculent.
Peut-être pas. On a beaucoup d'idées reçues sur le véganisme. Elle est convertie depuis peu de temps. Elle va nous expliquer les bienfaits et puis justement les idées reçues autour du véganisme. Alors, on commence avec les audiences. Bah, le carton, c'est pour France 3.
Incroyable.
Une fois
carton,
n'est pas coutume.
Hein.
Ouais.
Non, c'est souvent crime arrivé en premier.
Oui, mais en semaine comme ça, il y a souvent 5 234 000 téléspectateurs, 22,9% de part d'audience. C'est 1 300 000 de plus tout de même pour cet épisode inédit avec Antoine Duléry. C'est un vrai carton. Le Gadin, c'est pour France 2 qui est arrivé en 4e position sur le front des espèces menacées. Le magazine de Hugo Clément, 1 727 000 téléspectateurs, 7,8% de part d'audience. C'est extrêmement bas. C'est même 500 000 de moins, me signale Rémi Pernelet, par rapport à son précédent numéro en mars dernier.
Qui était déjà pas terrible.
C'est
en
quand
audience.
Même étonnant. C'est dingue, hein. Oui, les gens ont voté vert. Enfin, certains vont me dire c'est pas représentatif, etc. Mais là, en plus, c'est un magazine militant qui parle des animaux.
La
donc
disparition
c'est...
des espèces. Ouais. C'est incroyable que ça n'ait pas marché.
C'est étonnant. Deuxième position pour TF1 avec Jurassic Park. Bon, je pense que beaucoup de gens l'avaient déjà vu. 3 685 000 téléspectateurs. Et puis M6, 2 millions de téléspectateurs. C'est 300 000 de moins que la semaine dernière. Pour la France, a un incroyable talent. La bataille du jury, ça prend pas trop, hein.
Oh, ça va, quand même.
Ouais.
Il y a de la concurrence, hein.
Il y a de la concurrence, c'est vrai.
Jurassic Park.
Allez, qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir? On a Fanny de Narbonne, justement. Fanny, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous,
bonjour,
vous avez regardé Jurassic Park?
Oui, tout à fait.
Vous l'aviez jamais vu?
On l'avait effectivement déjà vu, si, je l'avais déjà vu. Mais j'aime beaucoup les effets spéciaux. Bon, c'est du Spielberg, hein, donc on passe un bon moment. Voilà, il y a des effets spéciaux, il y a une histoire qui tient bien en route. On a passé un moment très agréable. Hein.
Bon, donc vous n'avez pas hésité. Pourquoi vous n'avez pas eu envie de regarder l'émission justement sur les disparitions des animaux?
Non.
Elle a regardé les dinosaures.
Oui, les dinosaures.
Voilà, j'étais en train d'y penser. En fait, j'ai regardé, mais c'est des animaux qui ont déjà disparu.
Exactement.
Voilà, tout à fait.
Donc voilà. Bon, écoutez, et donc vous étiez contente de revoir ce film. On a en ligne, merci Fanny de votre appel, Eric qui est en ligne avec nous, qui nous appelle de Sceaux. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Alors vous avez regardé Sur le front des animaux menacés.
Oui, absolument. Moi, j'ai fait le choix de regarder le truc que les gens ne regardent pas, parce que je sais maintenant que la télé, ça fonctionne avec une grosse nouvelle qui nous dit « regardez par là ». Alors moi, je réagis logiquement, je regarde de l'autre côté, parce que je suis sûr que c'est toujours de l'autre côté qu'il se passe des choses intéressantes.
D'accord.
C'est comme ça qu'il faut réagir avec les médias.
Donc, vous intéressait quand même, les animaux.
Ça m'intéresse depuis que je suis tout petit, et c'est toujours les mêmes nouvelles, malheureusement. Il y a 10 ans, c'était le dernier poisson sur Arte.
Ouais.
10 ans plus tard, c'est le pangolin, le macaron. Alors, il y a un petit problème, j'en ai discuté avec des amis de France Télévisions, le format, le synopsis, le scénario, le coup, enquête, très personnalisé à l'émotion, culpabilité, je peux rien faire, moi, vous non plus, pour sauver le pangolin en Afrique. C'est atroce, l'image qu'on voit, mais j'ai pensé à un truc après, je me suis dit, demander des comptes aux nombreuses associations à qui on donne de l'argent, en leur disant, chaque année, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'à une certaine époque, j'ai donné des sous aussi bien au WWF, qu'à d'autres, mais il faudrait pouvoir venir une fois par an et dire, bon, vous avez fait quoi, s'il vous plaît?
Je pense qu'ils font beaucoup, hélas, mais que c'est le dessinateur Plantu qui parle du colibri, c'est-à-dire la petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. À force de petites gouttes d'eau, on va y arriver, mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez actives, assez militantes, sauf qu'après, l'inertie des pouvoirs publics fait que c'est compliqué, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est vers eux, c'est plutôt vers les gouvernements qu'il faut se tourner. Vous avez voté écolo, vous ?
Non, je n'ai pas voté écolo, je m'intéresse à la question, mais je ne vote pas écolo. C'était un peu... D'accord. Je trouvais que le format de l'émission était un peu fait pour des gens qui ont un peu des œillères. Moi, j'ai une vision plus large de ces questions.
Ouais. Et trop militant.
Oui, un peu trop militant peut-être, pas assez détaillé peut-être sur les espèces, parce que il faut d'abord intéresser les gens, et puis je pense qu'ils vont se dire, le grand public, dire « Ah, encore un problème alors qu'on en attend d'autres par ailleurs ». Donc, intéressez-nous peut-être à la nature des animaux, à ce que ça présente comme intérêt, parce qu'on les connaît pas, on voit des imbéciles qui les pêchent et qui les tuent et qui les massacrent.
Ça a été assez peu regardé hier soir, comme on l'a fait remarquer. Merci beaucoup Eric de nous avoir appelé. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, l'info du jour, et bien évidemment, c'est l'audition d'Agnès Buzyn par la commission d'enquête sur la Covid. Elle est revenue sur l'état des stocks des masques.
Je ne sais pas quels ont été les contrôles réalisés auparavant. Je n'en ai pas l'historique et je n'ai pas accès aux archives des précédant ma mandature. Ce que je sais, c'est que une demande a été faite en 2017 de vérifier les stocks, que la réponse nous est parvenue 18 mois plus tard, et que, aux surprises, des stocks étaient pour beaucoup pas en état de fonctionner.
Un an et demi pour connaître l'état des stocks.
Oui, et puis il n'est pas en état de fonctionner, ils étaient périmés, donc pas en état de fonctionner, il faut dire les mots.
Un an et demi.
On va évidemment reparler à
11h. Hier, c'était aussi des manifestations dans toute la France du personnel soignant, dont les conditions de travail n'ont toujours pas changé malgré le Ségur de la Santé.
Le matin, quand on arrive en hospitalisation, on nous dit il y a 5 patients qui doivent rentrer, il faut qu'il y en ait 4 qui sortent. Lui, il n'est pas prêt, mais il va sortir quand même. Donc on fait les sorties à l'arrache, les patients rentrent à l'arrache, et c'est comme ça tous les jours. L'organisation de l'hôpital, c'est une désorganisation organisée par un manque de lits, un manque de personnel.
Mais où est-elle passée ? Avec l'élection en ballotage à Marseille de Michel Rubirola et de Martine Vassal, les voix de Samia Ghali sont devenues le Graal. Mais seulement voilà, Valérie, on ne sait pas où est Samia Ghali, M6 l'a cherchée.
Sa photo est toujours là, mais sa permanence de campagne est déjà allouée. Ce n'est donc pas ici que nous trouverons Samia Ghali ce matin. Pas non plus à la mairie du 8e secteur qu'elle a remporté dimanche, ni dans le quartier.
On la voit plus. Alors, je suppose qu'elle est dans son quartier général, je ne sais pas où elle est, moi. Non, on la voit pas.
Est-ce qu'elle est en train de négocier, là, en ce moment, à votre avis ?
Ah, probablement, ouais.
La d'ordinaire, très volubile, Samia Ghali se fait discrète, l'élue des quartiers nord, et pourtant la femme politique la plus courtisée du moment, et elle le sait.
J'espère qu'on va retrouver Samia Ghali. Ouais. L'élection surprise des Verts n'arrête pas d'être commentée dans les médias. Comme dans l'info du vrai sur Canal Plus hier soir, Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine, est très méfiant sur cette victoire.
Ce que vous voulez, c'est que les Verts, ils ont une très bonne vitrine. Ils ont très bien joué stratégiquement parce qu'ils ont mis en vitrine d'abord des gens nouveaux, des gens de la société civile, des gens peu connus.
Oui, d'âge différent.
Mais que l'arrière-cuisine, c'est quand même du gros rouge qui tâche, parce que c'est quand même beaucoup de gens de gauche, la France insoumise, le Parti communiste, des mouvements Génération S, d'autres de société civile très à gauche. Donc il faut vraiment voir ça. Et surtout, la France n'est pas devenue écologique.
Alors, autre son de cloche qui date de lundi, beaucoup plus radical, celle d'Éric Zemmour sur CNews, un commentaire qui n'en finit pas de faire du bruit.
Les Verts, ils n'en ont rien à faire. Les Verts sont des multiculturalistes assumés. Les Verts sont des immigrationnistes assumés, des sans-frontiéristes assumés. Ils pensent qu'ils ont souci de la nation française comme de leur dernière éolienne. Si vous voulez, le Vert... des Verts correspond comme par hasard aux Verts de l'islam.
Mais si...
Il y a, si vous voulez, une alliance composite entre tous ces gens qui est derrière le vote vert.
Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais pas beaucoup sur le plateau. On ne peut pas dire que le plateau a réagi à ces propos. Et pour finir hier, c'était l'émission sur le front donc des animaux. On en a parlé avec notre auditrice en voie, et notre auditeur en voie de disparition, dont le lynx en France. Et hier, il y avait une image assez étonnante, vous allez voir, d'un sauvetage d'un lynx qui avait perdu la mâchoire.
Il l'a trouvée sur la route, inconsciente, la mâchoire cassée. Une voiture l'avait percutée. Gilles l'a remise d'aplomb. Et aujourd'hui, il s'apprête à la rendre à la nature.
Elle a eu la pose d'un croc sur pivot. C'est vraiment une toute première en la matière sur de la faune sauvage.
Ah, c'est la dent métallique, là.
Voilà, c'est un prothésiste dentaire qui a réalisé la prothèse et un dentiste pour humain qui a implanté ce croc.
Une première mondiale, la prothèse dentaire pour lynx. Une canine en chrome cobalt, qui doit lui permettre de chasser et de survivre à l'état sauvage.
C'était une image étonnante, Valérie, parce qu'il avait un croc tout en métal, c'était dingue.
C'est une émission assez remarquable, assez bien faite. Après, elle n'a pas rencontré visiblement son public. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec Patrick Sébastien. On est toujours content de le recevoir.
Lui aussi, il a la mâchoire acérée.
Absolument, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Média. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Patrick Sébastien. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. J'ai déplacé l'éléphant, ça paraît aux éditions XO et moi j'ai envie de dire que c'est le livre de l'été. Y a tout dedans.
C'est vrai que ça se pose et ça se reprend.
Et oui, et puis il y a du rire, des larmes, de l'émotion,
je peux expliquer le titre,
des coups de colère, ben vous allez l'expliquer, mais je voulais juste expliquer aux gens ce qu'ils allaient trouver, c'est-à-dire des petits chapitres avec des titres de films un petit peu détournés, La folie des glandeurs par exemple, où vous avez Léo de Hurlement, ces petits chapitres, eh bien, dans ces petits chapitres, on vous retrouve évidemment avec votre humour, votre émotion, et des phrases qui nous font réfléchir. Alors cette phrase, j'ai déplacé les
C'est au départ, je voulais appeler ça des phrases inoubliables, parce que c'est des phrases que j'ai entendues dans la vie, qu'on m'a rapportées, mais surtout des phrases qu'on m'a dites. Il y a des répliques, il y a des gens qui balancent des répliques dans la vie, des répliques de la vie de tous les jours, qui vous marquent. Et en fait, j'avais cette idée depuis longtemps, et puis un soir, j'étais dans un hôtel avant un spectacle, et je devais faire un gala le lendemain, et puis il y avait un mariage à côté, tu sais, un samedi soir. Et il y a une dame qui vient, qui me fait « Je suis la maman du marié, vous voulez pas venir nous chanter les sardines ?» J'ai dit « Mais avec plaisir !» Donc on a fait la surprise aux invités du mariage, le DJ, il a envoyé le truc, il a envoyé la chanson, et je suis arrivé, je te dis pas la fête. Et après, je discutais avec les enfants, là, et là, ils parlaient de ça, et j'avais un peu le blues, parce que c'était après la télé, et il y a une fille qui s'est approchée, j'aimerais bien d'ailleurs qu'elle me recontacte, parce que je sais pas son nom, et qui m'a dit cette belle phrase, ce beau proverbe indien, qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. » Et ça fait un un déclic.
Ça a fait tilt.
Je me suis dit, putain, mais quelle belle phrase, déjà. Et c'est vrai que toute cette grisaille que j'ai eue, faut la bouger, quoi.
Ouais, c'est pas toujours facile de déplacer l'éléphant, ben, parce que ça dit bien lourd, que c'est un éléphant. C'est que c'est
mais
lourd.
La phrase est tellement jolie.
Ouais, ouais.
Et comme j'avais en stock, ça fait longtemps que je voulais le faire, j'avais plein de phrases, alors j'ai fouillé dans ma mémoire, des phrases qui m'ont été dites par des anonymes, tout simplement, et puis des phrases qui m'ont été dites par des gens connus. Alors les chapitres qu'il y a dans le bouquin, ouais, c'est des fois c'est les médecins, des fois c'est l'amour, des fois c'est la vieillesse, ouais, etc. Et puis il y a des personnages. Il y a un chapitre sur Gainsbourg, un sur Léotard, un sur Coluche,
Nougaro,
sur les politiques,
on croise
sur DeVos,
Johnny, on croise Johnny, plein de gens, Annie d'ailleurs, Girardot.
D'ailleurs il y a une très jolie phrase là, sur Johnny, que comme il aurait eu 77 ans, j'y ai pensé l'autre jour. C'est ce que m'a dit un de ses fans le soir où ils l'ont enterré. Ouais. C'est le soir où ils l'ont enterré. Je crois que j'ai dit le soir de sa mort, c'est le soir où ils l'ont enterré que j'ai croisé un mec qui, la phrase, elle résume bien l'amour que ces mecs-là avaient pour Johnny. Il m'a dit, je m'en fous qu'il soit enterré à Saint-Barthélemy. Ce qui m'intéresse, c'est où il va ressusciter.
Oui, puis il y avait aussi Johnny qui vous avait dit, je me vois plus dans les journaux que dans le miroir de ma salle de bain.
On s'est pas vu souvent avec Johnny, mais la première fois, je me souviens, il m'a dit, tu sais, c'est depuis l'âge de 16 ans, j'ai photographe au cul.
Ouais.
Et je me suis plus vu dans les couvertures des journaux que dans le miroir de ma salle de bain.
Ouais. Mais ces phrases, vous vous en souvenez?
Oui,
vous
avez une mémoire phénoménale quand même. Parce qu'elle te marque.
Ouais, mais il y en a beaucoup.
Deux choses de l'éléphant, j'ai la mémoire et les oreilles.
Oui.
Et non, mais c'est vrai qu'elle te marque. Il y a des choses qui sont tellement... Gainsbourg, je m'en sers beaucoup de cette phrase. Je l'ai dit sur scène, comme je fume beaucoup, si je suis incinéré, au moins j'aurais fait la moitié du boulot. Et il y a des choses qui m'avaient dit en sortant du commissariat, c'est lui qui me l'avait dit, je la fais souvent sur scène aussi. Et quand tu penses qu'ils veulent mettre l'alcotest à zéro, s'ils mettent l'alcotest à zéro, qui c'est qui va conduire la voiture des flics?
En fait, moi, c'est ça qui me fait rire. C'est quelqu'un qui a arrêté de boire, qui écrit un livre avec des brèves de comptoir.
Ouais, un peu, c'est un peu ça.
Je trouve ça un peu rigolo. C'est dommage que vous ayez arrêté de boire. Vous auriez peut-être fait un deuxième tome.
Non, parce qu'il y a plein de phrases que j'ai eues que j'ai eu à jeun. Que j'ai eu à jeun. Mais il y a des situations aussi.
Je trouvais ça rigolo.
Mes gaffes à moi. C'est vrai que je raconte des phrases quand tu les prends. Je raconte une jeune fille que j'avais draguée toute une soirée, pendant une heure, j'ai fait un baratin énorme. Et puis elle disait, oh non, tu sais... moi, je ne veux pas être une parmi d'autres. Elle m'a fait tout un numéro. Je ne veux pas être une parmi d'autres. Alors moi, je lui ai dit, écoute... Et j'ai terminé en disant, écoute, quoi qu'il en soit, même s'il ne se passe rien, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je te promets que je ne t'oublierai jamais. J'ai dit, tu me crois? Elle m'a dit, oui, c'est exactement ce que tu m'as dit il y a 6 mois avant de me sauter.
C'est rigolo.
Et tous mes potes autour le savaient. Moi, je ne me souvenais pas. Ouais. Enfin, il y a mes gaffes à moi, parce que quand même, je n'ai pas dit que les gaffes des autres.
Non, mais
donc, il y a des anecdotes qui sont simples. Moi, j'aime bien l'anecdote de la gaffe que tu fais tout le temps, où tu crois que la nana est enceinte.
Elle est juste grosse.
Et là, il y a eu un truc formidable, c'était le... Tu sais, tu dis toujours, c'est pour quand?
Ouais.
Là, t'es dans la merde, parce que la fille, elle te fait, c'est pour quand quoi?
Ouais.
Et il y a un copain qui s'est arrivé, c'était un couple, et la nana, il dit, c'est pour quand? Et la fille, elle fait, c'est pour quand quoi? Et là, d'un seul coup, il se souvient qu'elle doit se marier. Ouais. Donc, il fait la culbute, tu vois. Il dit, ben, c'est pour quand le mariage? Et à ce moment-là, il y a sa femme, au mec qui est derrière, qui fait, en tout cas, tu devrais attendre que le bébé soit né pour la rendre.
Oui, ça, c'est vraiment pas mal.
Ça, c'est les rigolotes. Puis après,
il y a des choses plus profondes.
Sur les handicapés,
sur la mort.
Du Patrick Sébastien, qui navigue toujours entre l'émotion, le rire.
Sur ce petit garçon, parce que c'est une de celles qui me touche le plus.
Oui.
Que je suis allé voir
à Villejuif,
et qui voulait absolument me voir, et que ses parents m'avaient dit venez le voir, il vous aime beaucoup. Il sautait partout quand je suis arrivé, il était content, il était en pleine bourre avec son petit bonnet là. Puis il m'a amené dans sa chambre, il a mis la cassette du petit bonhomme en mousse, il sautait sur le lit. Et je lui ai dit, mais putain, mais t'es pas si malade que ça, t'es en forme. Et là, le môme, il s'est arrêté, et il m'a dit, non, je suis pas en forme, je vais mourir. Il y a 8 ans, il y a 8-10 ans, je vais mourir, ça me fait peur. Mais tu comprends, je saute partout parce que t'as vu mes parents, ils sont faibles. Si je fais pas ça, ils tiendront jamais le coup.
Oh là là,
et ça, franchement, tu prends ça dans la gueule, tu fais... Et puis ça toutes ces phrases, en fait...
Parce que vous les recontextualisez aussi, c'est ça, oui.
Je raconte,
vous racontez à chaque fois...
Je me laisse aller dans le style. Et puis c'est vrai que le fait, tu vois, il y a des phrases de gens comme ça, et des phrases de gens de la rue, puis il y a des phrases de président.
Ouais,
c'est ça qui fait ma richesse humaine, c'est que je suis aussi à l'aise avec ouais. avec les présidents de la République. Et les présidents de la République, il y en a certaines qui m'ont fait la phrase de Chirac, ouais. elle est magnifique, à qui j'ai dit, ouais. qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme ? Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille. Il y en a d'autres, je ne sais pas si je les ai mis ici, mais quand je suis arrivé à l'Élysée la première fois, j'ai fait putain, bel appart, hein. Eh oui, mon petit Patrick, de particulier à particulier.
C'est pas mal. Il y a des moments beaucoup plus émouvants. Alors, ça commence déjà par le chapitre sur votre maman.
Sur ma maman. Sur ma maman, ouais, que je mets tout le temps.
Dans tous vos livres.
Je raconte cette histoire de Joséphine Baker qu'elle m'a raconté parce que ma maman était serveuse au buffet de la gare de Souillac à l'époque, dans le Lot. Et moi, j'étais dans le berceau à côté, j'étais tout petit. Et Joséphine Baker s'arrêtait à la gare de Souillac pour aller au Milland, au château des Milland, où elle avait sa tribu arc-en-ciel, où elle avait adopté plein de gamins. Et elle s'était un peu attachée à ma mère, et elle lui dit, bah, venez avec moi au château, votre petit, on va l'élever avec les autres, et puis vous, vous ferez le ménage, vous ferez la cuisine, et puis... Et à l'époque, Joséphine chantait « J'ai deux amours » et ma mère lui a répondu « Non, non, vous avez deux amours, moi j'en ai qu'un ».
Moi j'en ai qu'un. Et c'est vrai que c'était des phrases de bon sens, c'est ce que vous dites.
C'est des phrases de bon sens.
Oui, il y a sa maman qui dit quelque chose aussi, j'ai noté.
Sur l'argent, non ?
Non, sur le fait où elle vous demande de ne pas arriver premier, mais deuxième.
Oui. Pour que tu sois premier de la classe, deuxième, ça suffit, il faut toujours avoir une marche à monter.
Mais ça, je l'ai gardé, ça.
Et puis,
celle sur l'argent, à quoi ça sert de s'acheter un matelas neuf à crédit si le prix du crédit t'empêche de dormir ?
Ça, c'est une phrase de ma maman.
Ça, c'est...
C'est super,
mais c'est vrai que la marche à monter, j'ai toujours trouvé ça vachement intéressant. Toujours avoir un rêve supplémentaire.
Il y a beaucoup de choses sur l'amour, le couple, les sexes.
Sur le sexe.
Oui, le sexe, oui, aussi.
Sur le cap d'Agde.
Mais sur les couples, sur finalement la longévité du couple qui est... Ouais. qui n'est pas évidente, et sur des chagrins d'amour.
Les chagrins d'amour, il y a ce chanteur, je ne le cite pas, puis je vais pas vous le citer.
Oui, j'aimerais bien
ici.
Savoir qui c'est.
Je te le dirai après. Mais c'est un très bon ami, qui avait vraiment une belle histoire d'amour avec ses gosses, avec sa femme, il les amenait partout et tout. Et puis un matin, la dame, elle est partie.
Ouais.
Avec les enfants.
Ouais.
Et il était détruit. Ouais. Et cette phrase, elle m'a bouleversé. On était tous les deux, il commençait à picoler un peu. Et il me dit, tu sais ce que je fais tous les soirs ? Tous les soirs, je mets des miettes de pain sur la table pour me faire croire quand je me réveille que les gosses sont partis à l'école. Mmh. Et ça, quand t'as un ami qui te dit ça les yeux dans les yeux, c'est terrible.
C'est dingue.
C'est terrible.
Ah oui, alors puisqu'on est sur ce thématique du sexe et de l'amour, on vous a dit aussi, c'est normal que tu te vautes, tu cavales comme un cheval.
Tu cavales comme un cheval fou. Ouais. Mmh. Non, mais ça, c'était rien, ça.
Ouais.
Mais sur le sexe, sur l'amour, j'ai pas mis
sur tout le libertinage.
Tout ce que j'avais entendu. Ouais, mon copain, une fois, on était dans une boîte, il y avait une nana qui se faisait peloter de partout, une gamine, tu vois. Mmh. Et ça me choque, tu vois, ça. Je dis, putain, si c'est ma fille, je vais la gifler. Mon copain, il dit, moi, j'écarte les jambes de ma femme, je la remets à l'intérieur. Il y en a eu plein comme ça. Ça, c'était mon copain Olivier. Je parle beaucoup d'Olivier.
Oui, vous parlez beaucoup
on
d'Olivier,
était des... Si tu veux, on a toujours été...
Olivier de Carsozon.
Olivier, c'était mon secrétaire. Son meilleur ami. Et on a toujours été des snipers. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a pu avoir la phrase, la connerie qui nous sort de nos malheurs, etc., on l'a eu. Mais j'avais déjà raconté dans un autre livre la phrase qu'il m'a dite le soir où mon fils est mort et que je suis monté sur scène. Il fallait qu'il me dise ça. Ou Coluche était mort en moto 4 ans plus tôt. Et mon copain, il m'a dit, il a imité Coluche mieux que toi. Il faut oser le dire, ça, quand t'es en pleine dent.
Ouais.
Mais ça nous a toujours, ces phrases-là, on a toujours eu envie de les balancer comme ça. Il y a plein de gens qui en connaissent. Ah, puis j'aime bien aussi mon toubib, là... gastro-entérologue. Parce qu'après la rupture avec France 2, tu sais, il y a toujours des trucs psychologiques. Ça bloque,
tu vois.
J'avais l'estomac bloqué complètement. Moi, j'ai jamais voulu faire de colo et de fibro. J'aime pas qu'on vienne filmer à l'intérieur. Et mon pote, ça fait longtemps qu'il me disait, il faut que tu fasses la colo. Alors, je la fais, la colo. Et évidemment, il n'y a rien. C'est nerveux. Et il me dit, je vais quand même te faire une ordonnance. Et l'ordonnance, elle est magnifique. Si les symptômes persistent, va mettre un coup de boule à un mec de France 2.
Et est-ce que vous avez suivi la posologie ?
Il a mis ça en rigolant.
Vous l'avez pas fait. On parlait du vous évoquiez le cap d'Agde. Il y a cette scène magnifique que vous racontez d'un monsieur qui joue du piano tout nu.
Ah oui, parce que de temps en temps,
c'est poétique.
Je les salue, mes amis du cap. Je suis pas, j'y vais tout seul. Je suis en touriste. Il y a un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Ozine. Et c'est vrai que le premier jour où je suis arrivé. Déjà, le mec, je suis arrivé, il m'a dit, ça vous gêne pas, c'est un hôtel libertin, vous voulez rester quand même ? C'est pas grave, je suis resté quand même.
J'ai fait l'habitude.
Et c'est vrai que le premier matin, quand je suis descendu, il y avait plein de gens habillés dans l'hôtel, des des gens qui livraient. Et il y avait un petit vieux tout nu qui jouait du piano au milieu de... Putain, je regarde ça, c'est quand même... Et le lendemain, quand je redescends, il n'est plus là. Donc je vais voir la fille de la réception, je dis, vous savez, hier, il y avait un type, un petit vieux, qui était tout nu, qui jouait du piano à 9h du matin. Elle me fait, oh là là là, oui. On lui a dit d'arrêter, il jouait trop fort. ça, c'est le genre c'est de réplique,
super.
Si tu veux.
C'est génial.
C'est super.
Ben, moi, je passe ma vie à traquer aussi tout
mais
ça.
Mais oui, mais que vous les reteniez comme ça, c'est phénoménal. Ben, c'est parce un peu, que... Vous êtes le Lucky Nid de la, bon, de la petite phrase.
J'ai cherché aussi. Il a fallu que je cherche. Il a fallu que... Mais il y en a que j'ai oublié. Je suis sûr qu'il y en a que j'ai oublié. Il y en a qui sont revenus après.
Bah, il y aura un tome 2.
Je ne pense pas, parce que là, j'en ai déjà dit pas mal.
En plus, vous faites plein de trucs à côté. On va peut-être en dire un mot. Je voulais parler quand même du...
Mais j'aime bien, parce que c'est un bouquin qui peut se poser, se reprendre.
Complètement, qui se prend, qui se repose. Et puis, franchement, qui se pose et qui se reprend, mais qui se lâche pas vraiment parce que les chapitres sont courts et on a envie d'aller.
Et puis j'ai rajouté le dernier sur le Covid. Ouais. J'avais fini de l'écrire, je me suis dit, il faut quand même
Le dîner des confinés,
ouais, en disant que ça c'est important, ce que j'en ai tiré moi de ce confinement, c'est qu'on avait découvert une arme où il n'y a pas besoin de permis, c'est la bienveillance de groupe. C'est-à-dire que tous on s'est confinés pour éviter de contaminer les autres, pour éviter. Et je suis un utopiste, je me dis, cette bienveillance, pourquoi elle continue? N'y aurait pas après. Voilà, tout simplement.
Et la dernière phrase du livre.
C'est la dernière phrase du livre. C'est le
bout du tunnel n'est pas loin, pour le voir, il suffit de se retourner.
Ouais, ça c'est une phrase que j'avais depuis longtemps, que j'ai eue dans plein de périodes. C'est très nostalgique en fait. C'est le bout du tunnel n'est pas loin, pour le voir, il suffit de se retourner. C'est-à-dire que le bonheur, il était juste là. Il est juste là. Il suffit de reprendre les valeurs, les fameuses valeurs auxquelles je tiens, et peut-être qu'on pourra avancer mieux plus.
Mais est-ce
que dans
que c'était mieux avant? C'est aussi la question un petit peu que vous vous dites, c'est les vieux cons qui disent ça, mais il y a des choses qui étaient mieux.
Mais moi je préfère le GPS, franchement, le progrès est vachement bien. Mais franchement,
oui, mais il y a une époque qui vous manque, vous vous sentez pas forcément à l'aise dans cette époque quand vous racontez Foulquier sur France Inter avec les cigarettes par terre,
ou les grosses têtes, l'esprit.
Non, mais la liberté.
La liberté, surtout.
Ce qui me manque le plus, moi, d'abord, c'est les gens. Ouais. C'est tous ceux que j'ai connus, des êtres merveilleux, qui ne faisaient pas des calculs d'image. Qui ne faisaient pas les Gainsbourg, les Léotard. Je parle beaucoup de Léotard c'était un être. Ouais. C'est brillant. Et puis, les jugements définitifs qu'on a sur les gens en permanence.
Très dur, hein, c'est un climat très dur.
C'est infernal. Moi, j'ai une gamine, là, aujourd'hui, de 12 ans. C'est très compliqué parce que c'est les réseaux sociaux, parce que là, elle hurlait contre les policiers, parce qu'il y a trois copains qui ont dit « Ouais, c'est tous des racistes ». Je dis « Mais Lily, c'est pas tous des racistes, les policiers. Il y en a certains, puis des racistes, il y en a aussi dans les animateurs, il y en a dans les ouvriers, il y en a dans les peintres, Mais ces espèces de généralités dont on abreuve les gosses, c'est terrible.
C'est compliqué d'arriver à leur faire comprendre ça, parce que les réseaux sociaux, l'entourage est parfois plus fort que la famille.
C'est pas mal du tout, parce que ces mômes-là, moi je vois ma gamine, mais en plus j'ai toujours été en rapport avec toutes les générations. Mon gamin, il aurait 50 ans cette année, celui qui est parti. J'en ai un de 40, j'en ai d'autres de 28, et j'ai la mienne qui a 12 ans, donc je suis en contact
avec
ça.
Plus ceux que vous ne connaissez pas.
Non, je pense pas. Oh ben non, avec ce que j'ai fait, non, je pense pas qu'il ait pu faire des enfants. On va pas rentrer dans les détails. Je pourrais être beaucoup plus grossé, beaucoup plus trivial.
C'est dommage, moi je voulais parler du joli chapitre sur Lily, justement.
Sur Lily, oui. Mais là, en ce moment, c'est très compliqué, parce que d'abord, les ados d'aujourd'hui ne sont plus à 14-15 ans, ils sont à 12 ans. Et donc, alors, c'est à la fois bien parce qu'ils ont une vue sur le monde que nous, on n'avait pas. Ils connaissent des choses qu'on ne connaissait pas, nous. Nous, à notre âge, on ne connaissait pas le dixième de ce qu'ils connaissent. Non. Et en même temps, là, c'est Fortnite et TikTok. Ouais. Alors, je connais tout. Et le rap. Et franchement, j'écoute les paroles. Il y a des trucs bien, mais il y a de la merde aussi. Excuse-moi. Je veux bien que mes chansons à moi, ça vole pas haut, mais franchement. D'ailleurs, dans mon album, je vais faire un rap. Ça s'appelle Wesh la galère.
Oui, parce que vous allez faire un abol qui s'appelle.
Ma fille, elle m'a dit, si tu fais ça, je fais plus partie de la famille. Tu me mets l'archouma. Comme ça, c'est comme ça qu'ils disent. Je me suis renseigné, je connais tout.
On a dit qu'on parlerait pas de télé, mais la télé, le fait que ça soit arrêté, ça vous a permis de faire plein d'autres choses, d'écrire.
Tu me connais par cœur. Moi, j'ai fait 35 ans de télé. J'ai fait 50 ans de métier. Les quatre dernières années, c'est un enfer. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai rencontré des gens formidables à la télé, j'adore ça. Mais là, ça a été un enfer à cause de trois personnes. Voilà, je ne peux pas revenir dessus.
Non, c'est fait.
Surtout, je n'ai pas envie d'y revenir. Et puis, j'ai fait mon temps. Mais je serais parti, de toute façon. J'aurais peut-être resté un an, deux ans de plus. C'est la manière, quoi, c'est tout.
Ouais,
c'est juste la manière, c'est dégueulasse. Enfin, ça l'apercevra
on va
plus
pas.
Tard.
Ouais, ouais, on va,
mais,
on va,
mais
et
franchement,
donc, ça vous a permis de faire quoi, que vous avez
ben,
fait
ça
quoi
m'a
pendant
permis
le confinement
de, ça me permet de, d'avoir d'être libre, putain, ouais. Libre. De plus avoir cette pression. De... Ouais, en plus, le fait de passer à la télé tout le temps, c'est très compliqué parce que tu fais de la télé. Tu as devant ta télé, tu as de tout. Tu as des gens qui t'aiment, des gens qui t'aiment pas. Il y en a qui te crachent dessus, etc. Là, tu vas faire des spectacles. Les gens qui viennent te voir, ils t'aiment.
Ah oui.
Moi, je sors des spectacles. C'est du bonheur intégral. Il ouais. y a que des gens qui t'aiment.
Ouais.
Et si t'es bon, si tu leur fais plaisir, c'est moi, j'ai gagné en un an, j'ai gagné 10 ans. Je te jure, j'ai gagné 10 ans parce que j'ai plus de la méchanceté récurrente, de l'intérêt récurrent. Toutes les valeurs que j'aime dans les dernières années de télé, c'est exactement, j'ai eu affaire exactement au contraire.
Tout ce que, alors, tout ce que t'as...
qui reste entre eux, c'est pas un problème, qui se bouffe entre eux. T'as un Marigot, t'as de l'eau claire, tu choisis quoi? Moi, je préfère l'eau claire.
Ah bah oui, c'est sûr.
Et alors... c'est vrai que, quelque part, j'en parle dans le bouquin... C'est aussi de ma faute, parce que j'ai jamais su me plier. Il y a une phrase dedans, qui est la phrase d'un copain voyou, qui est une de mes préférées, qui a parfaitement résumé mon histoire à la télé, qui a dit « Ils t'ont tué, mais c'est toi qui avais chargé l'arme.
Oh, » C'est très joli.
Et j'ai trouvé ça très juste et très joli, parce qu'il n'a pas été compassé.
C'est pas complaisant. Ouais,
c'est pas complaisant, et il a raison.
C'est dire, voilà, t'as...
Et c'est le même Tollard qui m'avait dit « Tu sais, Patrick, les prisons dont on s'évade le plus difficilement, c'est celles qui n'ont pas de barreaux. » Ça veut dire c'est des prisons qui n'ont pas de barreaux, dont on s'évade difficilement. Et c'était une prison sans barreaux dans laquelle j'étais.
Et la suite, c'est quoi alors?
La suite, c'est.
Il y a un album qui est sorti il y a quelques jours.
La suite, c'est d'abord, je suis en pleine forme. Ouais. Je dis ça parce que sur les réseaux, il y a un site à la con là, qui. J'avais une angine le soir de mes 66 ans. Donc ça fait un an que je vois Patrick Sébastien malade à 66 ans. j'ai une angine un jour. Voilà, c'est des gros enculés, je veux le dire, quand même, disons, ouais. Ces gens-là. Ouais. C'est un site qui dit que je suis pas malade. Est-ce que j'ai l'air malade?
Non.
Je suis en pleine forme. Donc, alors, les projets, c'est plein de choses. C'est d'abord...
Et vous n'avez pas peur du Covid, hein, parce que vous avez serré la main.
Et embrassé. On s'est
embrassé.
Oui,
Ça écoute, vous embête les gestes barrières, tout ça, le Covid?
Non, je les respecte par rapport. Bah, encore une fois, c'est pareil. La bienveillance de groupe. Après, il y a un moment où il faut être un petit peu lucide. Là, aujourd'hui, les mecs. Alors, s'il y a une chose que je voudrais dire, c'est moi, c'est mon métier que je défends. C'est-à-dire, personnellement, mais les gens de mon métier. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont entassés dans les. Dans les métros, qui sont en tête de trucs, et on ne veut pas ouvrir les théâtres. On a dit qu'on autorisait les spectacles à moins de 5000 personnes, jusqu'à 5000 personnes. Le décret n'est pas sorti, donc les gens ne peuvent
pas.
Les discothèques
théâtres,
ne peuvent pas ouvrir. On ouvre les restaurants, les machins, on ne peut pas ouvrir les discothèques. Les forains.
Donc
il y a un moment, moi je me bats et j'essaie de me faire l'interprète. J'ai passé plusieurs messages au président à ce sujet-là. Je suis l'intermédiaire. Moi, tu sais, moi.
Vous êtes comme Bigard, vous l'appelez aussi.
Il a déjà expliqué. On va pas revenir dessus.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'une semaine après, c'était Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, qui m'appelait pour me dire tu veux pas me mettre en contact avec Bigard.
C'est rigolo, ça.
Donc je fais intermédiaire de. Mais moi le président, quand je lui passe des messages, c'est pas pour ma gueule. Sinon, je serais encore à la télé. Tu comprends bien. Non, mais j'appelle beaucoup j'ai appelé récemment pour lui mettre le doigt. Et il est à l'écoute. Ça, c'est vachement bien. Sur les petits théâtres, il y a des petits théâtres de 100 places qui sont à la rue, qui vont perdre leur boulot. Donc, j'essaie de faire l'intermédiaire pour tous ceux, déjà de mon métier. Après, parce que là, aujourd'hui, il y a plein de gens, des restaurateurs, des machins, qui vont faire faillite, qui ne peuvent pas s'en sortir. Et il faut vraiment les aider plus que ça. Et les artistes, les comédiens, musiciens.
C'est dans une situation.
Les musiciens. Ouais. Nous, on tient sur. Nous, on est la dernière roue du carrosse. Ça m'a un peu gonflé. J'ai passé un message, d'ailleurs, que le président. Dans son discours, ne parle pas un seul moment
de la culture,
de la, ce qu'on appelle. Si, il parle de la culture, des musées.
Les musées, c'est pas.
Et alors, on a un ministre de la culture qui est magnifique. On l'entend sur rien. On a entendu tous les autres. Tiens, passe-moi un peu du truc.
Tiens, je passe du gel.
On a entendu tous les autres ministres. Mais là, alors que ce métier est en train de.
Je vais pouvoir dire que j'ai passé du gel à Patrick Sébastien.
Il y a plein de gens qui sont en train de crever dans notre métier. Et on a un ministre de la culture.
On ne l'a pas entendu.
Silence radio, alors que les intermittents, les musiciens, moi j'ai tous mes potes, moi j'ai, pourquoi j'ai fait mon album là ? Pour faire bosser mes musiciens.
Ouais, ouais.
Tu vois, parce que les musiciens, ils n'avaient pas bossé. Je suis à la retraite là aujourd'hui, je touche la retraite donc je peux m'arrêter, ouais, je peux me balader. Mais j'avais envie de faire bosser mes musiciens.
On ne vous voit pas assis dans un fauteuil en train de fumer la pipe.
En plus, j'avais envie, et je discute avec eux, qui sont emmerdés, ils leur tardent de remonter sur scène.
Bien sûr, c'est toute une économie qui est par terre.
Ouais, mais tu comprends, comme c'est une économie de divertissement, on est toujours dans le même problème de société. Il y a des choses sérieuses, et puis ça, c'est important.
Bien sûr,
ça fait vivre des dizaines et des dizaines de gens.
Et puis pour les gens aussi.
Mais alors, il vous dit quoi, le président, du coup ?
Du coup, je sais qu'il s'est, sur certains trucs, il a donné des numéros de téléphone pour écouter les gens, etc. Et tout. Après, moi, je ne suis pas décideur. Je me contente, mes rapports avec les... Parce que j'ai fait pareil avec Hollande et Chirac. Je ne suis pas un ami, je ne suis pas un intime, on s'est vu une fois. Mais j'essaie de lui transmettre
des choses très concrètes
en disant voilà, tu peux pas faire, regarde ça, va faire attention à ça, regarde, c'est tout. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais j'essaie d'être le transmetteur. Et comme il m'entend, en tout cas.
Ouais.
Tu vois ? Et je voudrais bien, là, qu'on décide quelque chose pour les spectacles. Moi, mes spectacles, cet été, c'est mort. Je devais faire donc la tournée vers matin, c'est mort. Bon, on va le reporter l'année d'après. Mais les autres musicaux, les boîtes, les endroits de fête, il y a plein de... Il faut quand même...
Puis tous les festivals.
Et surtout, ce qui est emmerdant, on a un ministre, c'est le flou. On nous dit pas.
Il n'y a pas d'annonce.
Ce ministre, il va pas venir un jour dire voilà, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, on va rouvrir ça ou on va pas rouvrir. Mais putain, mais qui vient de le dire ? Il parle pas. Vous l'entendez, vous ? À part dire, on va ouvrir les musées.
Ouais.
C'est bien, je suis content.
Mais les spectacles, effectivement. Donc, on vous revoit quand sur scène ?
Ben, moi, si je peux, d'après ce qui est prévu, c'est septembre. Ouais. Septembre-octobre, si on peut. Toujours pareil, dans la mesure des possibilités. Et puis surtout, le cabaret qui va être tourné. Et puis après, l'année prochaine, je vais repartir et je vais faire un dernier tour. Parce que les chansons de fête... Tu sais, je ne vais pas faire ça jusqu'à 75 ans. Donc, je vais faire une dernière tournée qui va durer peut-être 3-4 ans. Mais ça sera la dernière avec les chansons de fête. Ça va s'appeler 30 ans de fiesta, avec des titres nouveaux. Et puis, on va aller voir les gens sur les places. Tant que j'ai l'énergie, je vais le faire.
Et là, sur 10 heures, et les raisons, on va pouvoir couper.
Écoutez, on dégoupille.
Voilà.
On dégoupille. Je t'ai fait écouter un peu de bruit. Ouais. C'est de la fête.
C'est de la fête.
Et les gens vont pouvoir faire leur... C'est-à-dire, je voudrais qu'ils m'inventent des chorégraphies, qu'ils les fassent, qu'ils sautent, et on va faire un clip avec tous leurs trucs.
Ils font tout ce qu'ils vont
faire. Tu sais ce qu'il y a bien ? Vous faites ce que vous voulez. Habillé, à poil, comme vous voulez. Vous sautez dans l'eau, vous faites sauter les trampolines.
Voilà, tout, et donc on vous en ferait un clip. Le livre indispensable pour l'été, j'ai déplacé l'éléphant. Vous allez vous marrer, vous allez avoir parfois une petite boule dans la gorge, parce qu'il y a des moments où
ça détend et ça se pose, ça se reprend.
Il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires. Vous allez croiser Léon Zitrone, qui avait dit à quelqu'un « Je vous interdis de me reconnaître. Voilà, »
Et Kersauzon, avec qui on avait fait une belle soirée, j'ai dit « On est quand même des clébards. » Il m'a dit « Non. » Parce que le clébard, une fois qu'il a baisé, il continue à remuer la queue.
Voilà. Et Kersauzon, à qui vous disiez jamais « Bonjour en breton, qui est Kenavo, mais Canivo. » Parce que vous saviez comment vous alliez finir comme ça.
J'ai déplacé l'éléphant chez XO Édition. Merci Patrick Sébastien d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et puis très bon été.
Et vous aussi.
Merci. Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
Bravo d'abord pour tout ce que vous faites. Enfin un grand moment d'oxygène.
Sud Radio, parlons vrai. Vous voulez retrouver le chemin du village gaulois grâce à Sud Radio. Cette semaine, direction le parc Astérix. Venez profiter des attractions, spectacles et animations pour tous, dont Attention Menhir, l'aventure 4D inédite d'Astérix et Obélix. Et pour une immersion garantie en moins 50 avant Jésus-Christ, séjournez au Quai de Lutèce, le nouvel hôtel 4 étoiles du parc Astérix. Écoutez le Grand Matin Sud Radio avec Cécile Dominibus et Patrick Roger et gagnez à tout instant votre séjour famille au parc Astérix grâce à Sud Radio. Plus d'infos sur parcastérix.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Laurence Pio, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Tout le monde n'a pas la chance d'être végane. Petit manuel d'un véganisme pratique et pacifiste. Ne partez pas, ne quittez pas l'antenne. Végane, ça fait peur, ça fout les jetons. Il y a déjà un auditeur qui a dit, moi, je j'écouterai pas. C'est une minorité de gens que ça intéresse. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas végane et j'avais envie de vous recevoir ce matin après avoir lu votre livre donc paru chez HarperCollins pour comprendre comment la directrice de la rédaction de Closer, donc magazine People, devient d'un seul coup militante du véganisme.
Bah c'est un parcours en fait. Moi je raconte mon parcours dans ce livre où j'arrive au véganisme par la souffrance animale, par ras-le-bol de la barbarie avec laquelle les animaux d'élevage sont traités, comme la majorité des gens, et je me demandais comment faire individuellement. Ouais. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, et puis j'ai surtout parlé avec pas mal de médecins, et j'ai découvert des études qui étaient passées sous silence en France, en tous les cas assez peu relayées, qui étaient des études qui nourrissaient la littérature scientifique depuis pas mal de temps, et qui montraient que cette alimentation pouvait être un puissant outil de médecine préventive. Donc j'ai envie de dire, si vous le faites pas pour les animaux, faites-le au moins pour votre santé, parce que les faits sont là.
Sauf que il y a beaucoup, vous le dites dans le livre, d'idées reçues, en particulier vegan, ça veut dire carence, ça veut
absolument
dire que vous n'avez pas assez.
Ça veut dire manque de protéines.
Manque de protéines, etc., etc.
Voilà, donc, alors il faut savoir que toute la population française est carencée, hein, c'est pas spécifique aux vegan, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de peurs, de croyances qui sont savamment entretenues et qui s'attachent vraiment à cette alimentation. Donc, Avec l'aide d'un médecin, en l'occurrence docteur Jérôme Bernard Pellet, qui est le spécialiste en France de l'alimentation végétale, j'ai essayé de déconstruire un peu tout ça et de montrer que intelligemment menée, une alimentation végétale était complètement possible, comme le disent d'ailleurs des autorités de santé incontestables. On parle de l'Académie américaine de nutrition diététique, qui est la plus grande association de nutrition du monde, 100 000 membres, et qui montre que cette alimentation intelligemment menée, elle peut être complètement viable, y compris pour les enfants.
Mais alors, votre... il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, en particulier pour les enfants. Il y a eu des graves carences,
Il y a régulièrement, effectivement, des prises de position sur le sujet. Il faut savoir que la France et cette alimentation, elle est totalement diabolisée en France. Et je trouve que c'est ce qui est interpellant. C'est-à-dire, vous traversez la Manche, vous allez en Angleterre, le National Health Service considère que cette alimentation, elle est... Alors, ce n'est pas forcément la meilleure alimentation du monde, mais en tous les cas, c'est une alimentation comme une autre. Et on se demande pourquoi cette alimentation est très dangereuse en France. Et quand on va aux États-Unis, en Angleterre ou en Inde, hein, 30% de la population végétarienne, elle est complètement possible. Ça interpelle.
Ça veut dire quoi? Vous dites le véganisme, un tabou français.
Oui, ça veut dire qu'en France...
Il y a vraiment un parti pris français anti... C'est-à-dire que vegan, c'est souvent quand même associé à de l'extrémisme, à du militantisme, violence...
C'est ça, moi-même, il y a quelques années, c'était l'image que j'avais des véganes, avec les personnes qui vont chez un pauvre boucher de quartier, qui l'arrosent de peinture rouge, et le mec a demandé rien à personne. Je pense que là-dessus... Je comprends la révolte, parce qu'effectivement, on peut être révolté, légitimement, mais je pense que c'est pas le bon chemin. Je pense qu'invectiver, culpabiliser les gens, c'est pas le bon chemin. Et le livre est là pour ça, et le site que j'ai monté est là pour ça aussi, de montrer que le véganisme, c'est aussi un vieux courant de pensée. Hein. On remonte à l'Antiquité, aux philosophes grecs, aux cathares, à Gandhi. Donc c'est il y a une frange très petite, qui est effectivement très très radicalisée, mais l'immense majorité des véganes sont des gens pacifistes et qui ne sont pas du tout dans cette logique-là.
L'homme est carnivore ou pas ?
Non, l'homme est omnivore. Il y a débat autour de l'homme est-il herbivore ou pas. Maintenant, pour en revenir à cette alimentation, je pense qu'il faut être... Moi, j'ai été paumée, concrètement. Ouais. On est dans un pays où la viande est quand même un élément très important. On est juste derrière les États-Unis en termes de consommation de viande. Et quand on se dit, comme plein de Français, votre auditeur a raison, les gens qui se déclarent vegan, c'est une toute petite minorité. Maintenant, les flexitariens, c'est un tiers des Français. Il y a plein de gens qui s'interrogent sur cette consommation en se demandant comment faire? Et c'est vrai que moi, j'ai été complètement paumée parce que j'étais nulle en cuisine et parce que les légumes, franchement, j'avais pas du tout envie, je savais même pas comment les cuisiner. Et il faut être accompagné. Vous allez sur le site, vous inscrivez à un programme.
Alors, ça s'appelle Alternative Vegan. Avez déjà 100 000 abonnés, ce que vous me disiez.
J'ai 100 000 abonnés à la newsletter qui part toutes les semaines. Ça montre bien qu'en un an, 100 000 abonnés, c'est une question qui interpelle. Et dans cette newsletter qui est gratuite, je relaie justement toutes ces études, j'interview des médecins. Et si vous allez sur le site, vous vous inscrivez aussi à un parcours qui s'appelle Parcours V, qui est un programme qui vous apprend l'alimentation végétale. Parce que il y a des sites de recettes, mais pour vous prendre par la main et pour vous expliquer comment faire, c'est vrai qu'on est un peu paumé. C'est pas compliqué.
Non.
Il faut juste être un peu aidé.
Mais c'est vrai qu'il y a des recettes à la fin du livre. C'est vrai que les tagliatelles de riz, les tagliatelles à la carbonara, quand on lit 400 grammes de tagliatelles de riz, 250 grammes de tofu fumé, sauce soja, crème végétale, ça fait pas envie.
Mais ça fait pas envie, mais il faut le goûter. C'est juste, il faut prendre de nouvelles habitudes. Clairement, on grandit dans un pays où la viande est au centre de l'assiette et où les légumes sont la garniture. Donc, vous allez en Inde, le tiers de la population est végétarienne. Enfin, il y a quand même une haute gastronomie qui est une gastronomie végétale. Il faut effectivement réapprendre et revenir à cette alimentation qui était celle de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, où la viande était quelque chose de rarissime. Un morceau de lard dans la soupe quand vous allez au début du siècle. Donc il faut réapprendre effectivement les légumineuses, cette alimentation et oui, il faut être un peu accompagné.
C'est compliqué quand même parce que si on veut être vraiment vegan, ça veut dire, ça parle des vêtements, on ne met plus de cuir, plus de laine, puisque c'est une souffrance pour les animaux, enfin ça va très très loin. Vous l'êtes totalement
Alors moi je le suis. Enfin, sachant que voilà, on vit en France dans un pays industrialisé, donc si on veut soigner, c'est des médicaments, donc c'est aussi des tests qui sont pratiqués sur les animaux, donc on peut pas l'être à 100%. Mais évidemment, c'est un mode de vie qui exclut toute exploitation animale. Donc quand on enquête un peu, quand on découvre un peu la façon dont les choses se passent, on se rend compte à quel point toutes ces industries sont liées, c'est-à-dire l'industrie de la viande, l'industrie du lait, l'industrie du cuir, et à quel point on essore ces pauvres animaux jusqu'à en faire broyer les os pour les mettre dans la farine, pour la rendre plus blanche, à en faire de l'encre, à faire des fossiles avec du vison, enfin c'est sans fin.
Il y a beaucoup d'hostilité. Un commentaire, riz égale pas produit en France, le tofu est vendu sous plastique, les véganes sont-ils des pollueurs?
Ah oui, c'est toujours... Oui. Mais vous savez, quand vous êtes végane et quand vous parlez un peu de ça, vous devez être scientifique, médecin, anthropologiste, enfin vous devez être... Voilà, le livre, il est là pour
justement,
dire
y a beaucoup...
on peut être en bonne santé, on est en meilleure santé aussi, et essayez
ça,
une fois...
Ça, vous l'avez remarqué, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, comme changement depuis que vous
Moi, j'ai maigri, j'ai arrêté d'avoir des allergies respiratoires, de l'asthme, j'ai une meilleure capacité de concentration. Généralement, les gens qui... les études, encore une fois, incontestées, montrent que quand vous adoptez une alimentation végétale, vous avez 32% de risque en moins de développer une maladie cardiovasculaire. 32%. À l'époque du Covid, c'est quand même une alimentation qui mérite de s'y intéresser. On s'est rendu compte que parmi les cas les plus graves de Covid, il y avait des gens qui souffraient d'obésité. 35%, étude du CHU de Lille. L'alimentation végétale, c'est une réponse au surpoids. C'est une réponse à l'obésité, à condition qu'elle soit, encore une fois, bien menée. Ça mérite effectivement, en tous les cas, de la dédiaboliser, de s'y intéresser et d'arrêter de sortir. C'est vrai que le tofu, vous parliez du tofu, le tofu, moi, longtemps,
c'est
ça a été
bon,
le
truc... C'est le truc carré, blanc, qui n'a pas de goût.
Voilà, le truc qui flotte dans la sauce japonaise, mais dans la soupe japonaise, mais il faut juste le cuisiner, le mariner, il faut apprendre à le cuisiner. Comme ça, effectivement, c'est pas bon. Il faut apprendre 2-3 trucs et en fait, ça fait des plats qui sont vraiment délicieux. On n'abandonne pas le plaisir de manger. Moi j'aurais pas franchi le pas si j'avais pas trouvé ça bon
et facile à faire. Vous êtes mis à faire la cuisine.
Sans passer ma vie.
Non, mais il y a des choses assez simples. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant dans le livre, c'est que c'est pas culpabilisant.
Non, mais
que vous expliquez vraiment les choses de façon très pédagogique c'est pas culpabilisant.
Vous savez, moi, un truc que j'ai souvent, le matin, vous prenez une tartine avec de la confiture, un fruit, le midi, une grande salade, des amandes à 4 heures, et vous faites un verre de vin, des pâtes à l'arrabbiata ou au cèpe le soir, vous avez mangé vegan, vous avez fait une journée vegan. Donc, c'est pas compliqué, il faut juste effectivement réapprendre à cuisiner les légumes, aller sur une alimentation dont on exclut la viande. Et et vous voyez très vite les effets sur votre santé. Donc
quelle différence entre végétarisme et vegan, nous demande un auditeur.
Alors le végétalisme, en fait, c'est enlever tout ce qui est produits animaux, lait, œufs, viande. Le véganisme, c'est vous l'adaptez à votre mode de vie, c'est-à-dire d'accord. Pas de cirque, pas d'exploitation animale.
Et oui, le végétarisme, c'est un engagement c'est pas de viande, pour pas de la protection animale. Tout voilà. Le monde n'a pas la chance d'être végane. Petit manuel d'un véganisme pratique et pacifiste avec des recettes à la fin, c'est paru chez HarperCollins. Merci d'avoir été avec
merci
nous, Laurence
Piau.
Merci beaucoup et ça m'a donné envie, je dois vous dire, moi cool. Qui suis une gourmande carnivore, je me suis dit que ça fait réfléchir, il y a oui. Beaucoup de choses qui font réfléchir.
Et c'est bon.
Voilà. Merci à vous Laurence Piau, et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.